On dit souvent que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Et moi, ce que je veux dire aux personnes qui sont là, c'est qu'à cette époque-là, je n'étais pas un bon entrepreneur. Avant de me concentrer sur moi en tant qu'entrepreneur, je me suis concentré sur moi en tant que personne, en tant que mari, en tant que père. Et ça m'a fait performer en tant qu'entrepreneur. Ce n'était pas de taper sur la machine de l'entrepreneur, de me dire, ouais, sois un meilleur entrepreneur, fais plus d'argent et tout ce qui va avec. C'était de trouver qu'est-ce qui me bloquait, qu'est-ce qui m'empêchait d'avancer. Et c'est justement là que j'ai eu le déclic de ce triptyque de équilibre père, mari et entrepreneur et d'avoir mon succès aujourd'hui. Donc faites attention. Parfois, on a l'impression qu'on doit travailler quelque part. Et en fait, ça, c'est qu'une conséquence d'un autre problème. Donc, essayez d'aller un peu plus profond dans la découverte de vos problèmes, mais pas juste regarder les symptômes en surface.
Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement Entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec Le Déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Adri.
Salut.
Comment tu vas?
Écoute, ça va bien, Alec?
Eh bien, écoute, en pleine forme, content d'avoir ce moment avec toi, ce moment d'échange. On va pouvoir justement revenir sur pas mal de sujets. Je pense que cet épisode va être très intéressant pour celles et ceux qui nous écoutent, notamment pour ceux qui sont dans le domaine du sport, dans le domaine de la franchise. Et puis, bien sûr, pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent au sens large du terme, tu es le cofondateur et dirigeant d'Iron Body Fit. C'est une chaîne de studios de fitness spécialisée en EMS, électromyostimulation, offrant donc des séances d'entraînement efficaces pour une transformation rapide de la forme physique. C'est un réseau mondial aujourd'hui avec plus de 170 franchises dans 11 pays sur 4 continents, générant plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et rassemblant plus de 38 000 membres. Donc on peut dire que vous êtes en place et certainement certaines qui nous écoutent aujourd'hui ont déjà vu passer la marque Iron Body Fit, ce qui est mon cas. Donc j'étais super content de voir que tu étais l'un de nos auditeurs, ou en tout cas de temps en temps. Et puis, je suis extrêmement heureux de pouvoir passer ce moment avec toi. J'ai plein de questions à te poser, que ce soit lié à ton parcours, à tes débuts, à l'expansion d'Iron Body Fit, au modèle de franchise, à l'équilibre pro-perso et d'autres questions qui seront relatives du coup à notre échange. Et avant que je démarre, j'ai envie de mettre en lumière encore une fois, comme on le fait souvent, un de nos auditeurs qui est Alexandra, qui nous dit « très inspirant ». Je suis vraiment admiratif des vidéos d'Alec Henry. Ses podcasts apportent beaucoup aux entrepreneurs. Il a cette capacité à rendre les concepts d'entrepreneuriat accessibles et ses conseils sont toujours pertinents. La vie est plus longue que ça, mais je vais m'arrêter là et je vais te remercier Alexandra et je vais remercier toutes celles et ceux qui continuent à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, 5 étoiles sur la plateforme de streaming préférée. Et je vous invite, si vous voulez être annoncé aussi dans l'un de nos prochains épisodes, à mettre un avis sur Apple Podcasts également. Adri, merci pour ton temps et merci d'être là. J'ai envie tout de suite de te poser une question liée à ton démarrage en entrepreneuriat. Tu as fait une école de commerce, tu as fait partie de grandes écoles. Ton chemin était sensiblement déjà tout tracé avec un avenir assez traditionnel et autre, alors que finalement, tu t'es orienté vers la folle aventure de l'entrepreneuriat. Quel a été l'élément déclencheur qui t'a orienté vers l'entrepreneuriat?
Alors juste avant de commencer, je te remercie Alec et confirmer ce que dit Alexandra. Vraiment, ton podcast est vraiment très intéressant et très inspirant et ça apporte vraiment beaucoup de choses en tant qu'entrepreneur. Donc je te remercie et je remercie tous les intervenants que tu arrives à accueillir ici.
Merci.
Alors, tu as parlé de grande école de commerce, en fait, un petit fake, j'ai fait une petite école de commerce.
Okay.
C'était un bac plus 3. Et en fait, je me suis... jamais trop senti prêt à travailler pour une entreprise. Alors, on dit un patron, mais pour une entreprise. Depuis tout jeune, en fait, j'ai cette idée. J'ai vu mon père qui était entrepreneur et j'ai toujours eu cette idée de me dire que c'est un peu de la liberté, en fait, d'être entrepreneur. C'est un petit peu la liberté de choisir ce qu'on a envie de faire, comment on a envie de le faire, quand on a envie de le faire. Je parle en termes de mission entrepreneuriale. Et je me suis lancé tout de suite en sortant de l'école. Au lieu de continuer justement sur une grande école, je me suis lancé tout de suite et j'ai ouvert un petit restaurant. Et j'avais envie de me frotter à ça, en fait. J'ai envie de me frotter à ça, j'ai envie d'avoir cette liberté et de pouvoir ne pas mettre de limites, en fait.
Ok. Et est-ce qu'à un moment donné, tu as eu des doutes, tu as eu des peurs ou est-ce que tout de suite, ça a été évident pour toi de te lancer? À quel âge tu te lances? Parce que beaucoup de gens qui nous écoutent aujourd'hui, malgré leur potentiel, malgré leurs convictions, malgré même le fait qu'ils écoutent des podcasts par dizaines peut-être depuis des mois ou des années, n'osent pas se lancer ou alors ont quelques doutes avant de se lancer. Ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus.
Moi, je me suis lancé, je dois avoir 22 ans. Et je sortis à 21 ans de l'école, 22 ans, 22, 23 ans, dans ces eaux-là, donc j'étais quand même un petit peu jeune. Et bah, évidemment que j'avais des doutes. En fait, je pense que quelqu'un qui se lancerait sans doute et sans peur aurait certainement un petit problème psychologique. C'est obligé d'avoir peur, en fait. Mais il faut juste affronter ses peurs et se dire, bon, ok, je sais pourquoi j'y vais. Et se dire qu'au pire, en fait, qu'est-ce que tu perds? Moi, ma première affaire, j'avais, je sais pas, quelque chose comme 5 ou 10 000 euros d'investissement personnel à mettre. Et bon, ben, au pire des cas, tu as perdu 5 000 euros et tu peux te refaire, tu peux te relancer et tu peux. Il vaut mieux justement tenter quand on est jeune que moi aujourd'hui, on en parlera plus tard, mais j'ai 3 enfants et quand tu as 3 enfants, c'est peut-être un peu plus compliqué de se lancer. Donc, il ne faut pas prendre le fait qu'on est jeune comme un frein, mais il ne faut pas aussi se dire parce que ben, justement, j'ai 40 ans, j'ai une femme, 2 enfants et que ben, c'est compliqué de refaire une reconversion professionnelle. Au contraire, aujourd'hui, il y a tellement d'outils et d'accompagnement aux entrepreneurs comme tes formations ou tes podcasts ou d'autres, il y en a tellement de supports qu'aujourd'hui, ça devient vraiment, pour moi, à mon sens, une évidence et moins compliqué de se lancer.
Ouais, je te rejoins, effectivement. Un point aussi, c'est que tu n'as pas démarré directement avec Iron Body Fit. Tu avais créé une première entreprise dans le bâtiment. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que d'un coup, du jour au lendemain, tu décides de tout arrêter, te lancer de zéro dans un domaine complètement différent?
Alors, j'ai eu plusieurs entreprises. Hein. J'ai eu un petit restaurant. Après, j'ai tenté plein de choses. Je me suis planté plein de fois. Et en fait, Iron Body Fit, mon associé m'en parle. Et de base, moi, je voulais juste l'aider, être son client. Et en fait, j'ai vu le marché. Et surtout, j'étais, moi, personnellement, ça répondait à mon problème à moi. C'est-à-dire que j'avais pas le temps, pas la motivation de faire du sport. Je n'arrivais pas à m'entretenir de façon régulière. Et pourtant, j'en avais envie. Et donc, quand il m'en parle, j'ai tout de suite vu ça en me disant, je suis clairement un client de ce produit-là. Et j'ai regardé un peu autour de moi, je me suis rendu compte qu'il y avait, mais j'étais pas le seul. Et je me suis dit, ok. Donc en fait, vraiment le déclic, ça a été de me dire que j'étais passionné par le produit. C'est-à-dire que je sais pas si je pense, c'est mon avis, hein. Si quelqu'un veut lancer une entreprise et qu'il veut le lancer juste parce qu'il y a un bon marché et qu'il y a de l'argent à faire, je pense qu'il faut vraiment être passionné par le produit. Je pense qu'il faut vraiment être passionné par ce qu'on a envie de faire parce que justement, c'est ce qui va nous donner la motivation et les ailes pour passer au-dessus des obstacles. Donc moi, ça a été ça. J'étais un client potentiel et quand j'ai vu le potentiel de marché, derrière, après, j'ai emboîté le pas.
Ouais, complètement. Avant qu'on parle justement de Iron Body Fit et de ce marché, tu dis que tu as lancé plusieurs entreprises. Selon toi, outre la partie passion et adorer le produit, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui ont fait que tes précédentes expériences entrepreneuriales n'ont pas forcément eu le succès que vous avez aujourd'hui avec Iron Body Fit? Auquel cas, quels sont-ils?
La formation. J'ai commencé à me former en 2012, 2013 et je n'ai pas arrêté de me former depuis. La formation, clairement c'est la formation. J'étais pas formé, il y a tellement de choses à maîtriser, que ce soit la finance, le juridique, que ce soit le management si on a des équipes, que ce soit la relation client et tout ce qui va avec. La formation était clé.
Ok, et justement la formation on l'entend beaucoup, mais aujourd'hui il y a tellement d'offres de formation, il y a tellement d'informations disponibles aussi sur internet, notamment maintenant avec l'IA. Quels seraient les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui nous écoute et qui ne sait pas où trouver les bonnes informations?
Ah, mais ça c'est compliqué. Je dirais des témoignages, il faut essayer d'avoir des témoignages, essayer d'aller voir justement les personnes qui ont du succès. Moi, je suis allé voir les personnes qui avaient du succès et qu'est-ce que vous avez fait, qui vous avez suivi, et chercher des témoignages. Effectivement, il y a un peu à boire et à manger aujourd'hui en termes de formation. C'est un petit peu, je ne sais pas si la comparaison est bonne, mais c'est un petit peu quand tu vas prendre un Airbnb, si tu vois qu'il n'y a que un ou deux avis, attention, ça ne sent pas bon. Si tu vois que ça fait 5 ou 10 ans et qu'il y a des milliers d'avis, il y a peut-être un peu de chance que ce soit un peu mieux. Donc, moi, je dirais vraiment les avis, regardez, demandez des témoignages de personnes qui ont suivi la formation, qu'est-ce que ça leur a apporté. Ouais, moi, je creuserai comme ça.
Ok, okay, très clair. Concernant Iron Body Fit, notamment son expansion, en avril 2015, donc vous fondez avec ton associé Iron Body Fit, est-ce que, avant qu'on rentre dans le détail et qu'on creuse sur tous ces éléments, que ce soit au niveau du business model, du modèle aussi de la franchise, qui est un modèle qui intéresse de plus en plus de gens, j'ai reçu d'ailleurs pas mal d'entrepreneurs sur le déclic qui ont aussi développé de très belles franchises, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement en quoi consiste Iron Body Fit, c'est quoi la mission d'Iron Body Fit et qu'est-ce que vous proposez ?
Ben nous, on a une double mission. Quand on est franchiseur, on a une double mission. On a une mission orientée client et une mission orientée franchisé. Oui, client et franchisé. Donc, notre mission auprès des clients, c'est de rendre accessible l'entretien corporel, le fait de sentir bien dans son corps, bien dans sa tête, d'avoir confiance en soi, à des personnes aujourd'hui qui n'ont pas cette possibilité, du coup, des personnes qui ne se reconnaissent pas dans la pratique du sport de façon traditionnelle. Donc, pour le présenter simplement, je dis on propose des salles de sport pour les gens qui n'ont pas de temps ou les gens qui sont feignants, en fait. On a choisi cette niche-là parce que, ben, moi, justement, j'en faisais partie. Et parce qu'il y a une partie de la population qui a envie de prendre soin de soi. Mais aujourd'hui, on a une vie qui est trop chargée entre la vie personnelle, la vie professionnelle. Et on n'a pas le temps de s'entretenir. On n'a pas forcément le temps de bien manger. On a envie de profiter, on a envie de vivre sa vie aussi. Les gens n'ont pas envie de tomber dans une. Donc nous, notre mission, c'est ça, c'est de pouvoir rendre accessible à des personnes qui n'ont pas le temps, pas la motivation de faire du sport, pas le temps de façon traditionnelle, de pouvoir s'entretenir, ou des personnes qui veulent vouloir compléter ce qu'ils font de façon quotidienne. Donc il y a peut-être des personnes qui courent ou qui font du vélo ou qui ont d'autres activités, qui ont d'autres sports, qui ont envie de compléter ça avec de l'électrostimulation. Ça, c'est pour la partie client, et pour la partie franchisée, ben justement, c'est de rendre l'entrepreneuriat accessible à des personnes qui ont envie de se lancer dans ce milieu-là, donc de le rendre accessible et réalisable, en fait. Donc, avec de l'accompagnement et de la formation, on a vraiment axé beaucoup, tout notre développement, une grosse partie de notre développement sur la formation des franchisés, la formation des coachs. Donc, on incite beaucoup, beaucoup là-dessus. Donc, nos deux missions, elles sont vraiment là. Donner du succès aux franchisés et rendre l'entrepreneuriat accessible à une reconversion ou à un jeune qui a envie de se lancer, et rendre l'entretien corporel et le fait d'être bien dans son corps, bien dans sa tête, accessible à des personnes qui ne connaissent pas ça et qui ne savent pas comment le faire.
Mmh. Ouais, complètement. C'est intéressant, ça répond d'une certaine façon aussi à une question qui va venir dans quelques minutes. On ira plus en profondeur sur ces sujets justement de franchisés, de formation et autres, parce que je pense que c'est vraiment la clé. Aujourd'hui, Iron Body Fit s'est rapidement développé quand même avec plus de 170 franchises dans les quatre coins du monde. Comment est-ce que tu expliques cette expansion ?
Je sais pas, je suis sûr que si je reviens en arrière, 8 ans en arrière, et qu'on le refait, autant, j'ai pas le même succès. Je pense qu'il y a pas mal de... Je dirais pas de chance, mais de réussite sur certains points. Mmh. Mais ce que je sais, c'est que moi, il y a quelque chose que j'ai mis un point d'honneur, c'était le service client et mettre le client au cœur de notre métier. Okay. Le client au cœur de notre métier, qu'il soit coach ou franchisé, c'était de mettre mais surtout le client, c'est de mettre le client au cœur de notre métier et délivrer la valeur qu'on promet, en fait. Pour moi, c'était le plus important. On promet de la valeur et la délivrer au quotidien.
Ok.
Que le client ne soit pas un portefeuille, en fait. Que le client ne soit pas là pour payer un abonnement, mais le client, il est là pour... Il attend quelque chose. Il attend pas juste une séance par semaine ou une semaine. Il attend autre chose. Il attend qu'on se donne à fond pour lui donner de la valeur. Et c'est ce qu'on a essayé de transmettre et de dupliquer dans le réseau. Et a priori, on l'a plutôt bien transmis.
Complètement. Et justement, si on essaie de faire une rétrospective et qu'on décortique ces 8 années, étape par étape, peut-être, soit année après année ou soit... grande étape clé après grande étape clé de l'entreprise pour arriver justement à là où elle en est aujourd'hui en termes de franchisés, en termes de couverture à l'international, en termes de chiffre d'affaires également global qui est quand même colossal. Quelles sont les différentes étapes clés que tu identifies? Ça peut être intéressant pour celles et ceux qui nous écoutent, qu'ils aient ou pas un business type franchise.
Ben, la première étape, c'est... faire ton produit, en fait. Donc, on a fait notre premier studio et c'était de valider le concept. Donc, valider le concept, le remplir et faire un business model rentable. Ça, c'est important. Le tout, c'est pas juste d'avoir un nombre d'abonnés. Le tout, c'est pas juste. C'est aussi que ce soit rentable, parce que quand tu montes une entreprise et que tu veux vendre notamment de la franchise, il faut que tu vendes de la rentabilité. Donc, la première étape, c'était ça. Nous, ça a été assez rapide. En 3-4 mois, on a été très rapidement rempli et très rapidement rentable. Après, la deuxième étape, c'était de dupliquer ça à une petite échelle. Donc, de passer de notre studio à nous à une dizaine de studios franchisés. Et de dupliquer ça, d'être capable de faire à des franchisés la même chose. Donc là, c'est de nouveaux challenges. C'est là que la formation rentre en compte. C'est là que l'accompagnement, la relation humaine rentre en compte. Et après, là, on se développe bien en France. Et après, c'est apprendre à faire. C'est-à-dire que maintenant, c'est prendre quelqu'un. Tout à l'heure, j'étais en appel avec quelqu'un qui veut potentiellement ouvrir en Pologne, par exemple. Et je dois lui apprendre à lui à être capable d'ouvrir son premier studio, à vendre de la franchise, à dupliquer la franchise et à former. Donc, c'est faire et apprendre à faire. Okay. C'est les trois grandes étapes là pour une franchise, à mon sens.
Oui, complètement. Et à partir de quand, justement, tu parlais de la France, mais à partir de quand vous avez commencé à envisager une expansion à l'international, puis après carrément dans d'autres continents, parce que c'est une façon aussi de gérer, d'opérer, de manager, de choisir les profils avec lesquels vous allez pouvoir évoluer, de s'adapter aussi aux cultures de différents pays, parce que tu ne vas pas forcément, ne serait-ce qu'en termes de message marketing, t'adresser la même chose à certains types de profils dans un ou un autre continent ou dans un ou un autre pays. Quelles ont été les différentes étapes et l'expansion justement de la marque ?
Mais ça a plus été par opportunité.
Okay.
C'est-à-dire que le premier pays international qu'on a fait, c'était la Suisse. Et en fait, la Suisse, il y avait un franchisé... C'était un franchisé français qui avait son meilleur pote d'enfance qui était lui basé en Suisse, qui avait une autre activité. Et en fait, très rapidement, ils sont venus me voir, mais nous, on n'était pas prêts et eux n'étaient pas prêts. Ils m'ont dit, écoute, bloque-nous la Suisse. Quand on sera prêt, quand tu seras prêt, on se développe là-bas. Donc, sur le coup, comme je te dis, je n'étais pas prêt et on l'a plus fait par opportunité. La Suisse a été un succès. Et du coup, donc, on a eu d'autres opportunités qui sont présentées à nous. On a eu d'autres... soit franchisé, soit environnement d'un franchisé qui ont dit « moi, j'aimerais bien développer tel pays ». Donc vraiment, à ce niveau-là, je l'ai plutôt fait par opportunité. On n'a pas vraiment préparé notre développement international, si ce n'est les États-Unis sur lesquels on est en train de se concentrer aujourd'hui, mais si ce n'est les États-Unis pour lesquels on a eu du temps de préparation et d'anticipation. Mais sinon, tous les autres pays, ça a vraiment été des opportunités. Je pense au Canada, c'est quelque chose qui s'est fait au coin d'une table après un repas, en fait.
Et imaginons, demain, moi je suis autrichien,
oui.
Tu n'as pas encore développé l'Autriche, je te contacte et je te dis, écoute Adri, j'ai envie de développer une franchise Iron Body Fit en Autriche, il y a un énorme potentiel, comment ça se passe, comment est-ce que tu identifies si je suis le bon profil, si j'ai des valeurs qui sont alignées avec l'entreprise, comment faire en fait pour, en tant que franchisé, lorsque... ton modèle de développement dépend directement en fait, de la capacité de tes franchisés à pouvoir être bon, efficace, aligné à tes valeurs et donc exécuter correctement les briefs et les process, t'assurer d'avoir les bons profils face à toi. Parce que finalement, c'est peut-être c'est aussi important que de trouver un associé. Quoi, parce qu'une fois que le truc il est lancé, déjà que recruter des bons collaborateurs, salariés ou même prestats, ce n'est pas simple pour la plupart des gens qui nous écoutent. Donc, quand tu es franchisé, il y a des enjeux encore plus importants. Comment est-ce que tu procèdes et quels seraient les conseils que tu pourrais partager à celles et ceux qui nous écoutent à ce sujet ?
Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter Le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui, vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
Alors, je vais mettre beaucoup de nuances dans ce que je vais dire. Je vais bien expliquer à tout le monde que ce que je dis ne tient qu'à moi et que je ne prétends absolument pas avoir la recette magique. Je dis tout le temps que je suis un mauvais recruteur. Mais en fait, au fond, je pense que je suis un bon recruteur. Je suis un mauvais recruteur par rapport aux standards traditionnels. C'est-à-dire que ce soit pour recruter un collaborateur, que ce soit pour recruter un franchisé ou En fait, je laisse de côté tous les standards traditionnels et en fait, on va avoir une vraie discussion. Une vraie discussion où justement, on va essayer d'aller très rapidement sur les valeurs et on essaye d'afficher très fort nos valeurs pour que les gens, en fait, soit ça les rebute, soit, et du coup, qu'ils viennent parler nous, ce soit de eux-mêmes, en fait, qu'ils sentent que ça ne matche pas, en fait, soit pour qu'ils se disent, waouh, c'est génial, j'ai envie d'en faire partie, et du coup, ça marche bien. Donc,
être clivant.
J'essaye vraiment, ouais, exactement, d'être clivant et d'être, alors clivant, pas, le terme clivant, souvent, on a l'impression qu'en fait, tu sais, être clivant, c'est avoir une grande gueule et dire, tu sais, être, c'est, oui, clivant dans le sens où on affiche clairement qui on est et quel est notre positionnement. Et par exemple, si tu me dis aujourd'hui, je veux développer l'Autriche, je vais dire ok, très bien, bon, mais si tu veux être franchiseur là-bas, il n'y a pas de souci. Mais très rapidement, je vais t'expliquer qu'en tant que franchiseur, tu ne vas pas faire de fric pendant les premières années. Parce qu'un franchiseur, au début, il investit beaucoup. C'est le temps de faire grossir ton réseau, de mettre en place tout ça. Donc, celui qui est attiré par l'aspect, ah, je vais développer une franchise, c'est bon, je vais me gaver. Et dans les deux ans, je m'achète un château, une Lamborghini. Il va comprendre qu'il vaut mieux peut-être ouvrir des studios. Ça, oui, tu peux te faire de l'argent comme ça, plus rapidement. Mais être franchiseur, c'est mettre en place un réseau, c'est avoir une vision à long terme. C'est donc de façon assez volontaire, je grossis le trait en disant au franchiseur, tu gagneras pas d'argent pendant 5 ans en fait. Est-ce que dans la discussion, je le glisse très rapidement. Comme ça, la personne, je vois si en fait elle est là pour développer un réseau, s'intéresser à des franchisés pour le projet. Ou si c'est parce qu'elle avait juste l'idée de se dire que, allez, c'est bon, en 2-3 ans, on va faire plein d'argent et elle sera très contente. Donc, j'essaye vraiment d'afficher clairement nos valeurs et d'expliquer qu'être franchiseur, c'est accompagner des gens, en fait. C'est pas encaisser des droits d'entrée, c'est accompagner des franchisés, accompagner des nouveaux entrepreneurs. C'est beaucoup se remettre en question et faire passer le franchisé avant toi-même, en fait.
Ok, très clair. Et justement, c'est quoi le business model concret d'un franchisé pour celles et ceux qui nous écoutent et qui peut-être fantasment, tu sais, sur ce modèle de la franchise en écoutant d'autres personnes du podcast qui sont passées par là ou même en regardant les modèles de franchise les plus connus tels que McDonald's, par exemple, pour ne citer qu'elle ou autre. Je ne vais pas toutes les citer, peu importe. Mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le chiffre d'affaires qui va être généré par le groupe et l'ensemble des marques, c'est pas forcément du chiffre d'affaires directement pour toi. Quels sont les enjeux, quels sont les coûts, quelle est la difficulté aussi de réflexion par rapport au process de déploiement, de gestion. Toi, quels sont tes interlocuteurs directs, comment est constituée ton équipe. Ça peut être intéressant justement de mettre un peu un zoom sur ce modèle qu'est la franchise, parce que beaucoup fantasment sur des business models, que ce soit celui-ci ou d'autres, sans forcément connaître tous les tenants aboutissants. Et quand on a conscience du coup des enjeux derrière, souvent on va avancer ou opérer avec un petit peu plus de réflexion.
Nous on a essayé d'être disruptif en fait sur le modèle de franchise. C'est-à-dire qu'un modèle traditionnel de franchise, c'est le franchisé fait un chiffre d'affaires, tu prends un pourcentage de chiffre d'affaires qui varie en général entre 6 et 10%, et il y a tout un système d'accompagnement. Et en fait, nous, l'idée, ça a été de dire, bon, c'est un modèle qui date des années 20, peut-être, années 20, années 30, je ne sais pas, ce n'est pas McDo qui a lancé le modèle de franchise, mais c'est quelque chose comme ça, et qui n'a pas vraiment beaucoup évolué dans le temps. Et nous, on a essayé d'être disruptif. Donc déjà, on ne prend pas un pourcentage sur le chiffre d'affaires de nos franchisés, mais on prend un fixe. On a décidé de partir sur un fixe, parce que quand tu as un franchisé qui ne fait pas ses chiffres, en général, la réponse est « tu ne suis pas les process ». Et quand tu as un étranger qui fait plus que ses chiffres, tu lui dis donne-moi plus parce que c'est grâce à moi. Donc nous, on a évalué le coût de notre accompagnement et on a dit si tu fais plus, donc on parle en nombre d'abonnés dans notre jargon, mais moi, je m'attends à ce que tu fasses 150, 160, 180 abonnés. Si tu en fais 220, je pense que le facteur qui fait que tu as la 220, c'est toi le facteur X. C'est toi et ce que tu vas mettre sur le terrain, ton implication et tout ça. Et il n'y a pas de raison que je vienne prendre là-dessus. Donc, dans notre modèle à nous, c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas forcément aussi rentable que d'autres franchises. On a choisi en fait de plutôt laisser de répartir la valeur créée de façon assez égalitaire entre le franchisé, le master franchisé et la tête de réseau, et pas la tête de réseau qui prend tout. Donc déjà, ça c'est un premier des points. Le deuxième point, c'est qu'on a essayé de changer l'accompagnement traditionnel que peut avoir une franchise, qui est un animateur réseau qui va tourner, qui coûte beaucoup d'argent aux franchisés. Parce qu'en fait, quand un animateur tourne, tu dois le payer cher parce que c'est quelqu'un qui est en déplacement tout le temps. Il y a des voitures, il y a des hôtels. Et nous, en fait, on a essayé plutôt de numériser notre accompagnement et de minimiser nos déplacements, mais de maximiser notre présence auprès des franchisés. Donc ça a été un deuxième point qui nous a permis de faire notre équilibre avec les royalties fixes et pas très élevées. Et la dernière des choses, c'est que la plupart des franchises vont essayer de manger sur tout. Donc en fait, par exemple, il y a une chaise à mettre dans le studio. Eh ben la chaise, en fait, c'est moi en tant que franchiseur qui l'achète et je la revends au franchisé 2 ou 3 fois le prix parce que je veux manger sur la chaise. Nous, on a dit aux franchisés, écoute, tu me payes des droits d'entrée, tu me payes des royalties. Et en fait, le reste, alors évidemment, il y a un cahier des charges, mais le reste, en fait, tu vas le payer directement au fournisseur. Et tu vas, alors je dis pas qu'on prend pas de commission sur certains produits, mais typiquement le mobilier, c'est pas quelque chose sur lequel on s'est positionné. Et si on avait eu à se positionner dessus, c'est uniquement parce qu'on aurait été capable d'acheter en gros et de pouvoir fournir justement du mobilier à moindre coût. C'est-à-dire que c'était dans cette logique que je te disais tout à l'heure, qui était de d'abord se concentrer sur la rentabilité du franchisé, parce que si j'ai suffisamment de franchisés qui sont rentables, ma franchise sera pérenne et les franchisés seront présents pendant 10, 20 ou 30 ans. Et nous, c'était notre vision de la franchise. C'était pas de faire un coup, de monter une franchise et de la vendre dans 5 ans et de prendre quelques millions et de partir, mais c'était vraiment de monter un réseau pérenne. Et pour moi, le meilleur moyen de monter un réseau pérenne, c'était de se concentrer vraiment sur la rentabilité des franchisés.
Ouais.
Donc, ça a été notre vision. Par contre, moi, j'ai rencontré des franchiseurs qui avaient bien moins de franchisés que nous et qui faisaient bien plus d'argent que nous. Donc, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Je pense qu'il faut que la personne regarde en fonction de ce qu'il a envie de faire. Si quelqu'un a envie de monter une franchise, de la vendre dans les 5 ans ou 10 ans, de faire 5 ou 10 millions de cash out, c'est tout à son honneur. Hein. C'est son projet, c'est ce qu'il a envie de faire. Il n'y a pas de positif ou négatif. Nous, ce n'était pas notre vision. Et c'est du coup ce qu'on essaie de faire comprendre au franchiseur qui va prendre pour l'exemple l'Autriche, de lui dire, voilà, si tu es là pour faire un braquage et partir dans 4 ans, t'as pas tapé à la bonne porte, fais autrement.
Ouais. D'où la réflexion tout à l'heure que tu évoquais avec cette démarche de double intérêt, celle du client d'une part et celle du franchisé d'autre part,
oui,
pour pouvoir aller leur permettre de faire de la performance et d'être rentable.
Exactement.
Aussi, vous avez connu du coup une quand même très belle croissance dans laquelle vous êtes encore aujourd'hui. J'imagine que l'expansion n'est pas terminée. Quels sont les challenges qu'on rencontre quand on développe une entreprise à une telle intensité, surtout pour repositionner le cadre avec ton associé? Vous êtes parti de zéro. Donc, parti de zéro aussi en termes de compréhension du modèle de franchise, parti de zéro en termes d'expérience entrepreneuriale, même si vous aviez déjà eu des expériences dans le passé, peut-être pas à ce niveau d'intensité. Du coup, c'est quoi les grands challenges auxquels vous avez fait face, sachant que vous êtes basé sur un modèle de business physique aussi, c'est des studios. Je ne sais pas si celles et ceux qui nous écoutent ont bien compris ce que c'est l'EMS, mais c'est ces fameuses salles, studios où on va pouvoir mettre des électrodes sur son corps avec une tenue spécifique et pendant 20, 30, 40 minutes faire des exercices, et il y aura des décharges électriques qui vont être émises dans notre corps et ça permet de faire des séances en quelques minutes qui sont l'équivalent de plusieurs heures de sport. Et typiquement, vous avez fait face aussi à un challenge qui était le Covid, par exemple. Donc, parmi tous ces challenges, justement, que tu as rencontrés, que vous avez rencontrés, quelles sont les leçons qu'il y a eu derrière et quels sont ces challenges plus spécifiquement?
Tu poses vraiment des bonnes questions. alors il y a un challenge, on l'a dit, de formation. Tu as raison, hein, ça, c'était, il a fallu grossir en même temps que le business. C'est-à-dire que moi, assez rapidement, je me suis rendu compte que avoir un studio à nous ou avoir 5-6 franchisés, il y avait un Adri en 2016. Et en fait, si je veux toujours être présent en 2023 pour la boîte et être une force pour la boîte, il fallait que le Adri 2023 ne soit pas le Adri de 2016. Donc, grosse formation et mais vraiment à tous les niveaux. C'est-à-dire que j'ai vraiment à tous les niveaux, au niveau commercial, niveau marketing, niveau développement. Et en plus, dans une société qui va très vite, hein, parce que là, depuis quelques années, tu as parlé tout à l'heure d'IA, mais les choses vont vite en termes d'évolution. C'est-à-dire qu'avant, quelque chose pour être obsolète mettait peut-être 10 ou 15 ans. Maintenant, il y a quelque chose qui est valable aujourd'hui. Dans 2 ans, c'est peut-être obsolète. Donc, il faut être capable de s'adapter. et d'évoluer. Donc vraiment la formation, ça c'était un très très gros challenge personnel. Le cash flow et les capitaux propres. Je ne sais pas si tu as lu le livre sur Phil Knight, c'est le fondateur de Nike, qui est très intéressant et j'invite tout le monde à le lire ou l'écouter sur Audible. Et en fait, il explique que justement, il a eu ce genre de... Alors, à son échelle à lui, hein, évidemment. Mais il a eu ce problème de cash flow. En l'écoutant, je me suis vraiment reconnu là-dedans. C'est cash flow et capitaux propres. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as de la croissance, tout le monde se dit, ouais, c'est génial, tu ouvres 40 studios par an. Mais en fait, ouvrir 40 studios par an, c'est très compliqué, c'est ravageur. Alors, sauf si tu as un business qui génère beaucoup de cash, ce qui n'était pas notre cas à nous. Mais si tu as un business qui gère beaucoup de cash, bon, ben, ça va, tu peux grossir et tu n'auras pas ce problème-là qu'on a eu, nous. Mais nous, c'est pas, on n'est pas, en tant que franchise, on n'est pas vraiment, on ne génère pas énormément de cash. Et en fait, on a même décidé d'investir vraiment en amont. C'est-à-dire que quand tu sais que tu vas ouvrir 30 studios dans l'année, ben, soit tu ouvres les 30 studios et tu pêches un peu sur ton accompagnement, soit tu recrutes en amont et tu prépares ton accompagnement. Et, mais du coup, ben, tu dois payer tes salariés avant d'avoir encaissé le cash parce que les franchisés ne t'ont pas encore payé et ainsi de suite. Donc nous, c'était, on est vraiment, et on l'a toujours aujourd'hui, hein, c'est vraiment des problématiques de cash. C'est-à-dire que les banques, on était en France au démarrage, ne sont pas forcément les plus friandes. Alors au début, c'est une nouvelle activité, donc ils ne te suivent pas. Après, ben, ça va trop vite, donc ça leur fait peur. Ben, donc les banques, ben, ce n'est pas forcément, en tout cas pour nous, nos meilleurs amis. Et donc nous, le gros, gros challenge, c'est ça, c'est plutôt financier et cash. C'est que gérer la croissance, c'est très compliqué et ça peut être très destructeur de gérer la croissance. D'ailleurs, je me rappelle d'une époque où je reviens de Paris et j'ai mon associé qui avait eu un rendez-vous avec notre avocat et notre comptable. À ce moment-là, on avait des retards de paiement sur certains fournisseurs, donc notamment eux-là. Et donc, on a l'avocat et le comptable qui sont par nature normalement assez terre-à-terre, qui disent, tu sais, à Joanne, ils disent, ouais, il faudrait que tu lèves un peu le pied, que vous freiniez un petit peu parce que là, il faut stabiliser. Et là, moi, l'image que je lui ai donnée, je lui ai dit, écoute, alors je ne suis pas un bon pilote de voiture, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que quand tu es dans un virage que ça part un peu en tête à queue, la dernière chose à faire, c'est mettre un coup de frein en fait. Il faut plutôt contrebraquer, mettre un petit coup d'accélérateur pour essayer de contrebraquer ça. Sinon, tu prends le mur. C'est l'image que je lui ai donnée. Il m'a dit, OK, on y va. Et bah, du coup, on a continué à accélérer. Et bah, pour nous, les virages sont bien passés pour l'instant. Je touche du bois. Mais ouais, le cash a été vraiment… si ton activité n'est pas génératrice de cash, mais de beaucoup de cash, la croissance peut être vraiment destructrice.
D'où l'importance de maîtriser ces chiffres, comme on le dit, hein, on ne peut améliorer que ce que l'on maîtrise, les KPI, et notamment les KPI financières dans ce type de business model. Donc j'imagine que tu as dû monter en compétences aussi sur ces sujets, les sujets de finance, les sujets de financement aussi peut-être. Pour les entrepreneurs qui justement nous écoutent et qui ont un besoin en fonds de roulement, un besoin de trésorerie, mais qui est capital et qui pourrait peut-être remettre en cause ne serait-ce que l'existence de leur entreprise. Pourtant, ils ont un business model qui est sain, qui est rentable ou qui a des prédispositions à l'être assurément d'ici les mois ou les années à venir. Quels seraient les mécanismes que tu pourrais recommander à celles et ceux qui nous écoutent que peut-être vous avez dû utiliser pour pouvoir continuer votre croissance ?
Ben, il y a un livre qui est très bien pour ça, qui s'appelle, je ne l'ai pas en tête la même chose, c'est Lever des fonds ou La levée de fonds. Et contrairement à ce qu'on croit, ils ne sont pas juste en train d'expliquer comment on va parler à des VC, même s'ils te l'expliquent après. Nous, on a commencé avec ça, ils t'expliquent qu'au début, en général, tu as Love Money. Love Money, ça va être l'argent de papa, maman, tonton, tata, ton entourage en fait, quelqu'un qui est un peu proche, qui n'a pas forcément compris dans quoi il investit ou il prête de l'argent. Et... toi, si tu as un peu de valeur, tu fais attention de ta conscience que tu vas devoir rendre cet argent et que tu vas faire le nécessaire pour pouvoir le rendre. Et le Love Money pour des petits montants, en tout cas moi, dans mon cas, moi, parce qu'on n'avait pas forcément un entourage qui était multimillionnaire. Donc le Love Money est plutôt pas mal au début pour se lancer. Après, par contre, nous, on a fait du financement participatif. C'est-à-dire que pour l'instant, on a travaillé qu'en financement participatif. On a levé un peu plus à peu près 3 millions là, en 8 ans en financement participatif et ben, principalement auprès de nos clients en fait. Ça a été des franchisés, ça a été des clients, des gens qui… Donc après, au début, c'est du love money, c'est des gens qui t'aiment et après, c'est des fans, des gens qui aiment ton business. Et si tu as des gens qui aiment ton business, ben, potentiellement, ils sont aptes à… Parce qu'ils ont de l'argent à placer, il ne faut pas sous-estimer. Je parle de la France hein, parce que je ne sais pas où est ton l'auditoire là. Mais en France, on est un des pays les plus épargnants. Beaucoup de gens ont de l'argent placé. Et ben, par exemple, lever avec 10 personnes qui mettent 5 000 euros, ça fait 50 000. Avec 50 000, tu fais pas mal de choses, en fait. Mmh. Et c'est parfois un peu plus simple que ce qu'on peut le penser. Moi, je suis pas un grand fan là, des banques. Je trouve que le système bancaire n'est pas, à mon sens, favorable aux entrepreneurs en France. Et ils arrivent quand c'est un peu trop tard et pas quand on n'a plus besoin. Donc, moi, je dirais oui, le love money ou le financement participatif, pour moi, fonctionne très bien. Il y a des plateformes qui fonctionnent très bien de financement participatif ou tout simplement soi-même de prendre son bâton de pèlerin et d'aller parler très simplement à tout le monde, à tous ses clients et tous les gens qu'on a autour de nous en leur expliquant son concept. Alors, par contre, il faut bien le préparer. Faut avoir quelque chose entre les mains. Effectivement, tu parlais des KPI. C'est quelque chose, moi, que j'ai mis longtemps à découvrir, les KPI. Et au début, je travaillais un petit peu au doigt mouillé là, pour sentir. Et qu'en fait, quand j'ai découvert l'importance du contrôle de gestion, de la gestion financière et de la gestion des KPI qui ne sont pas que financiers, le business est passé à un tout autre level. Mmh. Et surtout, les investisseurs étaient plus aptes à t'écouter.
Ouais, complètement. Complètement, je te rejoins. Entreprendre, c'est savoir prendre les bonnes décisions. Après un an de lancement, après un an d'activité avec votre associé, vous décidez de passer dans le modèle franchise. Pourquoi avoir choisi ce modèle spécifiquement? Quels sont les avantages que vous voyez à l'époque dans cette approche pour le déploiement plutôt qu'un autre?
Je pense qu'aujourd'hui, quand quelqu'un veut se déployer, alors je parlais de business physique, quand quelqu'un veut déployer son entreprise en business physique, tu as, on va dire, trois possibilités. La première, tu vas maximiser ton point de vente. Donc, par exemple, je sais pas, on parle de fitness, donc par exemple une salle de sport, la personne va essayer de maximiser un point de vente. Donc, mettre plus de machines, étendre son activité, avoir plus de cours, enfin, peu importe. Après, il y a une deuxième version qui va être d'étendre. En France, il y a moi, une entreprise que j'admire qui est Marie Blachère, les boulangeries Marie Blachère. D'ailleurs, je pense que il serait hyper intéressant pour tes podcasts. C'est un gars en or, le fondateur. Et eux, ils sont tout en intégré. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a monté son activité et donc il a, je ne sais pas combien de centaines de boulangeries et tout est intégré. Il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages, tu gagneras plus parce que c'est ton activité. Tu vas, toi, être justement à la tête de ce chiffre d'affaires et de ces marges. Par contre, ça demande beaucoup plus d'investissement et surtout, ça demande du recrutement. C'est-à-dire que tu vas devoir recruter des collaborateurs. La franchise, c'est travailler avec des entrepreneurs et des indépendants. Et donc, ça a des avantages, c'est-à-dire que c'est beaucoup moins d'investissement. C'est-à-dire que nous, quand un franchisé ouvre, on a un investissement qui est pratiquement de zéro, voire même qui est négatif, parce qu'en fait, ils nous payent des droits d'entrée. Donc, nous, on n'a pas forcément de coûts à l'ouverture d'un franchisé. Au contraire, on gagne de l'argent, en tout cas à court terme. Par contre, tu t'adresses à des entrepreneurs. Par contre, oui, le gain est plus léger, mais le coût est plus léger aussi. Donc moi, je me reconnaissais en fait beaucoup plus, pour ma part, je me reconnaissais beaucoup plus dans le fait de travailler avec des indépendants, travailler avec des entrepreneurs qui ont, à mon sens, ce goût, en tout cas qui doivent l'avoir, d'avoir envie d'apprendre, d'avoir envie d'évoluer, d'avoir envie de grossir. Je ne suis pas vraiment pour le clash, le clivage entre les patrons et employés. Mais je ne me reconnaissais pas forcément dans la gestion de 400 salariés à l'échelle nationale, par exemple. Aujourd'hui, il y a à peu près 300 coachs au niveau national en France. Et je ne me reconnaissais pas, moi, dans la gestion à l'échelle de 300 salariés. Par contre, gérer m'accompagner sans franchiser, c'est quelque chose dans lequel je me retrouve beaucoup. Parler avec des entrepreneurs, les faire évoluer, leur prodiguer des formations, c'est quelque chose dans lequel je me reconnaissais bien. Et donc, ça a été mon choix, en fait. C'était plutôt ça. C'est est-ce que je veux maximiser les gains et avoir… C'est peut-être quelqu'un qui a besoin de plus de contrôle. C'est-à-dire que moi, par exemple, avec des franchisés, tu as moins de contrôle qu'avec des salariés. Avec des salariés, tu as plus de contrôle et les choses se passent à peu près comme tu le veux. Quand tu as des franchisés, ça ne se passe pas forcément comme tu veux. Et c'est là où je trouve qu'il y a de l'excitation. C'est-à-dire que tu dois t'adapter aux personnes que tu as face à toi. La tendance est un peu différente.
Malgré justement le fait d'avoir des briefs et d'avoir des process qui sont établis, hein, parce que quand tu développes des franchises, c'est souvent très process, très brief. Est-ce que tu as une anecdote justement à nous partager, un peu croustillante, de situation où malgré les process, malgré les briefs, malgré les indications et malgré en plus le fait que tu donnes des formations, tu donnes des conseils, parce qu'avec l'expérience, tu sais ce qu'il faut mettre en place ou pas pour que cela fonctionne, ou en tout cas, ton objectif et ton intérêt, c'est faire en sorte que le franchisé puisse générer le maximum de chiffre d'affaires et développer son business. Une anecdote où ça ne se passe pas du tout comme prévu et tu dois malgré ça t'adapter à la situation pour pouvoir faire en sorte que ça se passe quand même le mieux possible.
Mais j'ai un franchisé, c'était un de nos pires franchisés. Aujourd'hui, il bosse avec nous à la tête de réseau en fait. Okay. Et quand je dis c'est un de nos pires franchisés, c'est qu'il est génial. Mais en fait, dans notre concept à nous, en fait, on fait que de l'électrostimulation. C'est-à-dire qu'on ne met pas de poids, on ne met pas d'élastique, on met rien dans les studios. On a choisi vraiment de faire juste une activité d'électrostimulation. Et c'est quelque chose qui est vraiment dans l'ADN de notre concept. Et en fait, on a ce franchisé, et s'il écoute, je pense qu'il écoutera, il se reconnaîtra. Lui, il nous a tout fait. C'est-à-dire qu'il a mis des steps, il a mis des sacs de boxe, il a mis des ballons, il a tout mis. Sauf qu'à cette époque-là, il a 3 studios. Donc, tu sais, c'est un franchisé qui pèse. Et si tu le fais de façon brute et contractuelle, tu arrives, tu dis, écoute, tu me fais chier, ton contrat est interdit de faire ça, tu me corriges ça demain ou tu vires du réseau. Et moi, ben justement, c'est quelque chose qui est hyper challengeant parce qu'en fait, tu dois te poser la question, mais pourquoi il a fait ça? Peut-être qu'il n'a pas compris, peut-être qu'il a son idée ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, il bosse avec moi, enfin avec moi, il bosse dans l'équipe, il fait partie de l'équipe. C'est un membre indispensable de l'équipe. D'ailleurs, c'est un membre extraordinaire dans l'équipe. Il fait partie des gens qui vont voir les franchisés, qui leur dit, les gars, en fait, il ne faut pas mettre n'importe quoi. Mais du coup, quand tu te retrouves face à ça, et le sac de boxe, pour moi, la boxe, c'est le niveau ultime du boxe, du sportif. C'est-à-dire qu'un stepper, allez, à la rigueur, je peux un peu comprendre qu'il ait eu un besoin de mettre un stepper. Mais le sac de boxe, et les gens qui ont déjà essayé de l'EMS là et qui comprennent ce que c'est que de faire une séance et d'avoir un sac de boxe, je me demande même comment tu fais pour taper dans le sac avec la stimulation. Et ça a été, mais c'est une anecdote là que encore aujourd'hui on en parle. Enfin, c'était quand on veut parler d'un mauvais élève là, on parle de lui et de son sac de boxe. Et donc il avait 3 franchises, il en a revendu 2 à d'autres franchisés, il en a toujours un pour lui. Et aujourd'hui, il bosse avec nous en parallèle au développement du réseau en France. Et donc, ben pour moi, c'est un vrai succès, c'est de se dire que j'aurais pu partir en clash, j'aurais pu perdre un franchisé ou perdre un élément du réseau ou me disputer avec. Et aujourd'hui, au contraire, quelques années après, notre relation est encore plus forte que ce qu'elle était avant.
C'est parfait parce que cette anecdote, elle introduit assez bien la prochaine question. C'est-à-dire que là, ce que tu évoques, c'est que tu as un franchisé qui, de prime abord, est un peu le mauvais élève tel que tu l'évoques. Et puis finalement... il devient un très bon élève, un très bon élément au point de rejoindre l'équipe pour vous permettre de développer ou en tout cas soutenir le développement de l'expansion au niveau, là en l'occurrence, national sur la France. Avec une expansion comme celle-ci, notamment à l'international, totalisant plus de 170 franchises, encore une fois, je le répète, c'est quoi les stratégies qui ont été mises en place pour gérer efficacement au niveau d'une organisation aussi vaste et aussi diversifiée? Comment est-ce que tu assures une communication et une coordination entre toutes ces entités réparties dans tous les différents pays? Est-ce que vous avez du coup une équipe en interne? Si oui, bah, comment ça marche? Combien vous êtes? Est-ce que tu as des responsables de réseau d'un point de vue pays ou continent? Qu'on se rende compte justement de l'ampleur de l'infrastructure et de la structure qui est nécessaire aussi pour pouvoir gérer ça.
Mais en France, pour gérer les réseaux français, c'est une quinzaine de salariés là aujourd'hui, juste le réseau français. Donc bon, on s'est structuré, on a des personnes justement qui s'occupent des partenariats avec les produits complémentaires, on a une partie administrative, on a un contrôleur de gestion en interne, donc justement je parlais tout à l'heure des KPI et des reporting, donc on a choisi d'avoir un contrôleur de gestion en interne, on a des développeurs, des accompagnateurs pour le réseau, mais en fait notre développement international, c'est un investisseur qui me l'a fait prendre conscience, j'avais pas pris conscience de ça. En fait, on a travaillé un petit peu en essaim d'abeille, on va dire. Et en fait, la plupart de notre développement international est né de la France. C'est-à-dire que notre développeur au Canada est français, notre développeur en Espagne est français, notre développeur en Angleterre est français. Et en fait, ils étaient franchisés ou ils faisaient partie de l'équipe ou ils étaient dans l'environnement. Et en fait, à un moment donné, on les avait envoyés un petit peu en émissaire dans ce pays-là. Ils ont dit, ok, moi, c'est bon, je prends le pays. Et donc, ils l'ont acheté. Quand ils ont acheté le pays, ils ont acheté le droit de développement de la franchise sur le territoire. Et donc, c'est ce qu'on appelle, nous, des master franchises. C'est-à-dire que au Québec, c'est un couple, par exemple, ils étaient franchisés en France, ils ont vendu leur studio, ils sont partis là-bas, ils ont acheté le droit d'entrée. Et maintenant, ils développent là-bas sur le territoire. Donc, ils vivent les mêmes effets de palier que j'ai cité tout à l'heure pour la France. Donc, premier effet, c'est de trouver, alors soit d'ouvrir le sien, soit de trouver son premier franchisé, de l'amener au succès. de dupliquer ça sur 3-4 studios et après de monter à 10-20 et après d'aller chercher les nombres en fonction du pays, le potentiel du pays. Donc, on n'a pas du coup la même infrastructure en fonction des pays, en fonction de leur niveau d'avancement. En Espagne, là, c'est tout frais. On est en train d'ouvrir et d'accélérer un petit peu en Espagne. Ils sont pour l'instant 3 à développer l'Espagne. Et s'ils suivent les mêmes tendances que la France, ils vont passer de 3 à 5, à 10 et à 15 pour arriver à peu près 15-20. C'est à peu près, à mon sens, l'équipe complète pour développer un pays comme d'une taille de la France.
Ok, je vois. Ouais, c'est hyper intéressant. Et du coup, au fur et à mesure de l'évolution, comme tu le disais dans ton cas, le Adri de 2015 n'est pas celui de 2023. J'imagine qu'il n'est pas non plus celui de 2018 et qu'il n'est pas celui que tu seras en 2030. Je te rejoins complètement. Un CEO doit évoluer au fur et à mesure que son entreprise évolue et des problématiques auxquelles il fait face, sans quoi effectivement ça pose problème. C'est pareil finalement pour les effectifs, c'est pareil pour les équipes, c'est pareil pour les franchisés qui sont eux aussi des entrepreneurs et qui vont pouvoir, comme tu l'as exprimé là, il y a quelques instants, passer des paliers et franchir des étapes. C'est donc une tâche colossale et cruciale d'avoir la capacité de les former, de les faire monter en compétences, de les fidéliser aussi. C'est grâce à ça finalement aussi que tu les fidélises, parce qu'au plus ils sont formés, au plus ils ont capacité de générer du résultat, au plus ils génèrent du résultat, au plus ils ont envie de rester et de développer la franchise au niveau des villes, des régions, des pays et des continents. Comment est-ce que tu t'organises au niveau de la formation? Quelles sont les différentes choses qui ont été mises en place pour soutenir et fidéliser l'ensemble des franchises à travers le monde et les accompagner dans leur croissance? Est-ce que tu as créé une académie? Est-ce que cette académie, il y a différents niveaux? Est-ce qu'il y a différents cursus? Ou est-ce que c'est juste des process et il y a une sorte de bible liée à ça?
Si mes franchisés écoutent, ils vont croire qu'on a préparé ce podcast et que tu me déroules le tapis rouge pour mon activité. C'est incroyable ce que tu fais, Alec. Vraiment, tu es très, très pertinent dans tes questions. C'est incroyable.
Non, je confirme, on ne se connaissait pas avant l'épisode et on ne s'est pas concerté.
Non, mais vraiment, ça montre ta pertinence et ça confirme ce que je te disais, que vraiment, tu es bon dans ce que tu fais. J'aime beaucoup. Mais en fait, on s'en est rendu compte sur le tas. Donc, c'est ces choses, tu sais, être entrepreneur, c'est ça, c'est être capable. Tu as dit tout à l'heure, prendre des bonnes décisions. Effectivement, c'est prendre des décisions et être capable d'analyser ce qui se passe. Donc, on a eu des franchisés qui ont ouvert un premier studio. Donc, ils sont successful, ça se passe bien. Ils ouvrent un deuxième, ils ouvrent un troisième. Et là, tu dis, ben, c'est bon, tout va bien. Et on s'est rendu compte qu'on a eu des franchisés qui sont passés en difficulté en ayant 3 studios à gérer. Et effectivement, donc, ce que moi, j'ai appliqué pour moi, qui était de me dire, le Adri de 2000, j'espère avoir la capacité d'évoluer pour 2028. Parce qu'en fait, si dans les prochaines années, je ne suis pas capable d'évoluer, il faut que je sois conscient que je devrais mettre quelqu'un à ma place. Parce que le plus important, c'est la boîte. Et ce n'est pas moi, mon ego, de dire, c'est bon, je suis CEO, je dois rester CEO. D'ailleurs, tu as beaucoup de boîtes, je pense, qui ont coulé parce qu'à un moment donné, le CEO n'a pas pris conscience qu'il devait se barrer, en fait.
Je fais juste une petite parenthèse. Excuse-moi de te couper. Je n'aime pas couper mes invités, mais je te coupe parce que c'est important que les gens qui nous écoutent mettent de la valeur sur ce que tu viens de dire. C'est hyper important en tant que CEO de comprendre que vous devez perpétuellement évoluer, grandir, vous former, avancer. Parce que si votre boîte évolue plus vite que vous, vous serez soit remplacé, soit vous allez limiter la capacité de votre boîte à évoluer parce que c'est toujours l'élément le plus faible du système qui nivelle par le bas la performance globale de l'entreprise ou de la somme des actions. Et à un moment donné, le CEO, celui qui prend les décisions, donc ça reste la personne clé la plus importante. Et c'est pour cette raison que, pour ma part, un des pans de dépenses les plus importants dans ma vie, dans mon quotidien, c'est ma montée en compétences ou la montée en compétences de certains collaborateurs clés dans mes boîtes. Et ça, c'est hyper important et je suis super content que tu le mettes en évidence et que tu l'évoques parce que c'est la base de tout. Excuse-moi de t'avoir coupé, je te laisse continuer.
Non, mais c'est tellement important ce que tu dis. En fait, souvent, on a l'impression quand on est CEO que la boîte nous appartient. Alors oui, la boîte m'appartient parce que j'ai 50% de la boîte, mais en fait, le poste de CEO ne m'appartient pas en fait. Quand tu es CEO, tu as un fardeau sur les épaules, moi j'aime bien le dire comme ça, c'est que tu as la mission de porter la boîte en fait. Et la boîte, elle ne doit rien à toi. C'est, d'ailleurs, normalement, quand tu es CEO, tu as un salaire, tu as une rémunération. Et souvent, en plus, quand tu es CEO, tu commences à te prendre des grosses rémunérations parce que tu les vaux ou tu te prends pour une autre, ce n'est pas la question. Mais en fait, tu as un fardeau, tu dois porter la boîte. Mais au bout d'un moment, il faut comprendre que la chose la plus importante, c'est la boîte, ce n'est pas toi. Il y a une série sur l'histoire de Uber qui est intéressante. Alors attention, c'est toujours romancé, hein. Mais le mec a été... Sa folie a fait que Uber est devenu ce qu'il est devenu. En tout cas, si tu regardes la série, hein, je ne connais pas l'histoire. Mais à un moment donné, il devenait dangereux. Ils l'ont fait sauter. Il devenait dangereux pour la société. Et souvent, on a cette idée que le CEO, ouais, mais quand il va partir, tout va s'écrouler ou... Non, en fait, et surtout en tant que CEO, tu as cet ego de te dire que non, tout repose sur toi. Et moi, je l'ai aujourd'hui, je le pense du fond de mon cœur. Et j'espère que c'est vrai, que je ne me trompe pas. Parce que, en fait, on a un des plus grands CEO de l'histoire de l'entrepreneuriat qui a disparu de son entreprise. Et aujourd'hui, elle continue à bien se développer. Je parle d'Apple. Et l'entreprise continue à se développer. Alors, peut-être qu'elle ne se développe pas comme Steve Jobs, si Steve Jobs avait encore été là. Mais il faut avoir conscience que. Moi, en tout cas, j'ai fait partie des gens qui ont dit, quand Steve Jobs malheureusement est décédé, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui va devenir d'Apple? Je suis un grand fan d'Apple. Je me dis, qu'est-ce qui va devenir d'Apple? Et en fait, on se rend compte que Tim Cook, qui continue, en tout cas pour l'instant, à bien développer, que ça se passe bien. Donc vraiment, quand on est CEO, faire attention avec son ego, moi, c'est ma plus grosse crainte. J'essaie tout le temps d'essayer de me mettre face à un miroir, que ce soit avec mes équipes ou quoi que ce soit, à me demander, est-ce que c'est toi qui es fou ou est-ce que c'est toi qui as raison? Il faut vraiment se poser régulièrement. Mais du coup, il faut être capable, effectivement, d'évoluer, de se former, d'évoluer avec ça. Mais nos franchisés, ben, ce n'était pas le cas. Donc, on a des franchisés qui ont eu des difficultés. Et du coup, on a mis en place un process, un parcours de formation. Donc, on appelait ça au début l'école du multistudio. Et maintenant, on est en train de le faire muter sur la masterclass. Et on appelle ça la l'IB masterclass. Et l'idée, c'est justement de les faire monter sur d'autres compétences. Parce qu'en fait, gérer un studio, ça te demande quoi? D'être bon relationnel. Si tu n'es pas bon en gestion, ce n'est pas grave en fait. Parce que tu vas compenser tes lacunes en gestion avec un nombre de membres un peu plus important. Sauf que quand tu as 3 studios, que tu n'es plus dans tes studios, automatiquement ton nombre de membres, sauf si vraiment tu as des équipes qui sont ultra performantes, ton nombre de membres va diminuer dans tes 3 studios. Ton activité, quand tu dupliques comme ça, ça diminue un petit peu. Donc, c'est là où tu dois maximiser ta capacité de gestion financière, ta capacité d'analyse. Tu dois maximiser tes compétences de management, de relations humaines. Parce que si tu n'es pas capable de faire ça, ben en fait, tu te retrouves avec 3 studios et très rapidement, en tout cas nous, très rapidement, il n'y a plus de cohésion d'équipe. Tes équipes, ils sont là pour un chèque de paye et pas forcément pour… Et tu crois que c'est leur faute, mais en fait, ce n'est pas leur faute, c'est tes compétences à toi qui font qu'ils en sont là. Tu as tes indicateurs ou ta mauvaise gestion qui fait que ben, tu vois trop tard le mur arriver et en fait, tu te rends dans un mur. Donc là, justement, la masterclass, nous, elle va être orientée là-dessus. Elle va être orientée management, gestion des indicateurs, donc des KPI, gestion financière. Et ainsi de suite. Donc, c'est notre parcours, il est là. Donc, au début, je te forme à gérer un studio, et après, je te forme à en gérer 2, je te forme à en gérer 3, et nous, le plan idéal, c'est d'aller jusqu'à 5, et après, je te forme à en gérer 5. T'as ton plan à 5 studios, et là, c'est, à mon sens, pour un franchisé, le stade ultime où t'as mis en place un système qui te permet de bien vivre et de pas forcément avoir à travailler non plus 100 heures par semaine.
Ok, très clair. C'est hyper intéressant parce que ça introduit un autre point qui est finalement d'avoir conscience de la valeur de la montée en compétences et conscience de l'importance de mettre face à ses ambitions des actions qui sont alignées. C'est quelque chose de bien trop courant aujourd'hui que d'avoir des gens qui du coup ne vont pas mettre des actions en face de leurs ambitions ou en face de leurs objectifs qui sont cohérentes. Est-ce qu'il y a un moment donné où toi tu l'as ressenti, tu l'as vécu, est-ce qu'à un moment donné tu as eu ce désalignement et tu as pris conscience de ça pour être aussi clair dans ton esprit et aussi convaincu finalement que beaucoup de choses passent par la formation notamment?
Mais alors du coup j'ai eu la chance parce que c'est dans mes autres activités, c'était en 2012 en fait, j'ai rencontré un mec qui avait été nul dans son entreprise et qui était hyper successful derrière et tout le monde faisait des photos avec et c'était un peu une star et moi ça m'intéressait pas forcément de faire une photo avec, je voulais plus en tirer quelque chose et je lui pose une question, je lui dis mais quel a été ton déclic, alors j'ai pas dit le terme déclic mais là j'utilise pour le podcast, je dis qu'est-ce qui a fait qu'en fait t'es passé de nul à fort en fait, qu'est-ce que t'as fait, et il me dit ben en fait avant non il me répond, il me dit si tu veux jouer, il me dit tu fais du sport, je dis ouais je fais du foot. Et il me dit, OK, il me dit, si tu t'entraînes comme un amateur, est-ce qu'il est cohérent que tu aies des résultats d'amateur? Je dis, ben oui. Il me dit, si tu t'entraînes combien de fois par semaine? Je dis, une fois au grand mot et une fois le dimanche, on joue. OK. Il me dit, si tu penses que tu t'entraînes comme un professionnel, à raison de 2 fois par jour, Est-ce que tu penses qu'en 2, 3, 4 ans, 5 ans, tu risques d'atteindre des meilleurs niveaux à quel niveau tu joues et est-ce que tu peux monter en niveau? Je dis, bah oui, c'est une évidence. Il me dit, ok, ben en fait, j'ai fait la même chose en tant qu'entrepreneur. Je me suis entraîné comme un professionnel. Donc, ça, c'est en 2012, donc c'est même 3 ans. En fait, moi, le Iron Modified, je le lance en 2015. Mais quand je le lance, ça fait déjà 3 ans que je me prépare à ça, sans le savoir que je me préparais à Iron Modified. Et donc, ma deuxième question à lui, ça a été, ok, mais c'est quoi? Lui, il pense qu'il m'a donné la réponse, il se retourne. Je dis, non, mais là, il faut que tu sois un peu plus clair. Si tu es entrepreneur, c'est quoi s'entraîner comme un professionnel? Parce que là, tu ne m'as pas donné la réponse. Il m'a dit quelque chose qui a été pour moi. Il m'a dit, tu lis 10 pages par jour d'un livre. Il m'a dit pas plus, hein, pas 11, pas 20, pas 5, 10 pages par jour d'un livre. Tu écoutes une heure d'audio par jour et tu assistes minimum à 2 conférences par an. 2 conférences de sujets qui sont liés à ton activité automatiquement. Il m'a dit, tu fais ça de façon régulière et tu verras tes résultats qui vont changer. Et donc, j'ai commencé ça en 2012. J'étais absolument pas successful dans mes entreprises, dans ce que je faisais. Et je pense qu'en fait, le fait d'avoir mis cette routine de 2012 à 2015 a fait que quand j'ai commencé à Iron Modified, ben, j'étais au niveau de monter un studio et de le monter en compétences. Et après, ben, j'ai continué. C'est toujours ce que je fais au quotidien. Hein. Aujourd'hui, au quotidien, je continue à appliquer ces méthodes-là. Peut-être un peu plus à certains moments, mais ça a été mon déclic et ce que j'ai commencé à préparer en 2012.
Mmh, je vois. Et justement, tu parles de ton quotidien. Aujourd'hui, c'est quoi ton quotidien en tant que CEO d'une telle boîte? Et deuxièmement, du coup, vous êtes 2 associés. Tu l'évoquais tout à l'heure, vous êtes à 50-50. Comment vous répartissez les tâches? On sait tous les deux l'importance que ça a d'être complémentaire en tant qu'associé. Ça peut être intéressant de mieux comprendre comment vous répartissez les tâches et quel est ton quotidien, toi, aujourd'hui, en tant que CEO d'une telle structure.
C'est au début, au non-lancement, on a rencontré des... Quand je dis des vieux, ce n'est pas des personnes âgées, mais des vieux entrepreneurs, donc des gens qui avaient du succès. Ils ont dit une phrase, ils ont dit le meilleur nombre d'associés, c'est un nombre impair et inférieur à 2. Donc, en fait, ils ont fait comprendre que quand il y a 2 associés, c'est toujours un peu le bazar parce que ben, tu risques de te disputer et tout ça. Et donc, au début, on s'était réparti les tâches. On avait, ben, moi, j'avais clairement une compétence de vente et d'accompagnement du réseau. Et c'était lui le président, d'ailleurs. Et lui, il gérait la boîte, il gérait l'administratif. Et il faisait d'autres choses, hein, il ne faisait pas que ça. Mais en fait, en gros, si je devais le répartir comme ça, c'était moi, j'étais sur le terrain et lui, il était plutôt à la gestion. Et en fait, très rapidement, pas très rapidement, mais en fait, en 2018, justement, il a commencé à se retirer un petit peu. On a nommé une directrice générale à ce moment-là, et lui a commencé à se retirer de la gestion de la société. Et je l'admire vraiment et je le remercie jamais assez pour cette capacité justement à avoir compris qu'il n'arrivait pas à suivre la cadence de croissance et qu'il fallait qu'on mette quelqu'un de plus compétent à la gestion de la société. Donc à ce moment-là, il s'est orienté sur d'autres missions de la boîte qui n'étaient pas au niveau de la gestion de la boîte. Et après, ben depuis quelques années, il s'est retiré. Donc en fait, on fait vraiment la part entre la casquette d'associé. Donc on est associé, on a des réunions d'associés. D'ailleurs, sa posture est encore plus confortable maintenant parce qu'il me demande des comptes et il me casse la tête à moi de lui faire des reporting et de lui présenter qu'est-ce qu'il en est. Mais aujourd'hui, lui, il a une vraie casquette d'associé et il est toujours présent. Il est présent dans l'environnement Iron Modified, mais il a vraiment pris ce recul, sa casquette d'associé. D'ailleurs, il développe lui-même des studios. Donc, il a 2 studios en France, à lui en propre, et il est en train d'en ouvrir un. Il l'ouvre dans 10 jours, il en ouvre un à Miami, et il a décidé, lui, d'ouvrir ses propres studios. Donc, à quel point on croit en notre concept, c'est-à-dire qu'il est associé de la boîte, mais il a choisi, lui, de mettre son temps maintenant dans ses activités personnelles. Et en l'occurrence, ses activités personnelles, c'est d'ouvrir des studios. Ça, c'est son. Donc, aujourd'hui, moi, depuis maintenant quelques années, j'ai pris la gestion du groupe global. Là, j'ai pris la gestion, moi, personnellement, du groupe global. Moi, mon rythme en tant que CEO, et attention, encore une fois, je répète, hein, c'est mon rythme à moi, je ne suis pas en train de dire que c'est le bon rythme et tout ce qui va avec, mais j'ai un rythme effréné, c'est-à-dire que je me lève très tôt le matin, je me lève à 4h15 le matin, je commence mes rendez-vous à 5h, et parce que ben, je dois compiler ça avec ma vie, j'ai 3 enfants et je suis marié depuis 12 ans, donc ben, j'ai aussi une vie de famille à compiler avec ça, donc j'ai une vie, je suis très très orienté travail et performance. Donc, je trouve toujours 30 minutes de ma journée pour faire mon sport, écouter mes audios, parce que maintenant, j'avoue que je ne lis pas, mais j'écoute Audible. Mais bon, ça fait le job. Et je travaille, je commence à 5h, je finis vers 19h le soir et je m'arrête pas.
Intéressant, et merci pour la transparence. Et justement, t'évoques un sujet, t'es père de famille, t'es marié, on l'a évoqué tout à l'heure en off, ça fait partie des choses les plus importantes de ta vie avec ta boîte, ce sont les trois choses les plus importantes de ta vie, tu l'évoquais. En ayant autant de responsabilités sur une telle entreprise qui nécessite beaucoup de temps, de l'engagement, des sacrifices, de la concentration, parce qu'en plus tu as conscience du fait que être CEO, c'est avant tout prendre des bonnes décisions, j'allais dire des décisions, mais surtout les bonnes décisions. Comment est-ce que tu concilies les différentes sphères de ta vie avec ton développement personnel, ton développement continu de ton entreprise, et puis bien sûr tes proches, ta famille?
Mais moi, ce que je dis, c'est que déjà, je remercie ma femme et mes enfants d'être compréhensifs et de l'accepter et de me laisser le faire, en fait, de me laisser le vivre. Parce que je pense qu'en fait, tu sais, quand tu es passionné comme ça par ta boîte, toi, tu t'en rends pas compte, en fait. Mais ceux qui en souffrent le plus, c'est ton entourage, en fait. Et donc, moi, j'essaye déjà de. Je passe. Il y a des moments où je coupe. C'est-à-dire, quand je coupe, je coupe. C'est-à-dire, il n'y a pas le téléphone et. Si je suis coupé, je vais pas répondre en fait, sauf si urgence vraiment, mais je vais vraiment essayer de couper et de passer des moments de qualité. Si je suis avec ma femme ou avec mes enfants, de vraiment passer des moments de qualité. C'est-à-dire, si je vais au resto avec ma femme, j'ai pas mon téléphone, et normalement non, parce qu'autant elle écoute ça, elle va me dire oui, non, si, des fois ça arrive. Oui, ça arrive, mais normalement, j'essaie de pas avoir le téléphone et pas être en train de traiter des sujets ou des ci ou des ça. Je suis avec ma femme. Je pose le téléphone, je le mets en silencieux et j'essaye de faire abstraction de ça parce qu'en fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas forcément d'urgence et que tu traites ça le lendemain, tu traiteras ça le lendemain. Et pareil avec mes enfants. Donc, j'ai essayé de mettre un rythme, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai quelque chose qui me tient à cœur, c'est que le matin, je prépare mes enfants pour aller à l'école. C'est-à-dire que dans mon agenda, il y a de 7h à 8h, il y a écrit rendez-vous, mais en fait, je suis en préparation de mes enfants. Donc, il sera très rare que j'ai un rendez-vous avec mes enfants, un rendez-vous professionnel à ce moment-là. Par contre, mais par moment, ça passe par des moments d'absence. Donc, est-ce que j'arrive à le concilier? Je pense que non. Moi, je te dirais que oui, mais je pense que si tu demandes à mon entourage, ils te diront que non, pas forcément. Et que, certains moments, tu délaisses un peu ta boîte pour ta famille, et certains moments, tu délaisses un peu ta famille pour ta boîte. Mais moi, je me suis fixé trois. C'est-à-dire que par contre, ce que j'ai beaucoup délaissé, c'est mes amis. Je passe beaucoup moins de temps avec mes amis et ainsi de suite. C'est si je suis pas en train de travailler, je suis avec ma femme ou mes enfants. C'est principalement comme ça que j'essaie de me structurer. Et au milieu de tout ça, j'essaie de garder du temps pour moi quand même, de garder environ entre 30 minutes et une heure par jour où justement je peux aller faire un footing, faire un peu de sport et écouter un livre audio juste prendre un peu de temps pour moi. Et j'emboîte quand même une vingtaine de minutes de méditation. Alors, c'est un grand mot, méditation, mais de moments pour moi là dans la journée. Donc, c'est quand même très rythmé. C'est-à-dire que je suis un peu un robot. Des fois, ma femme elle me fait des remarques. Elle a un peu raison. Elle me dit, quoi, faut que je passe par ta secrétaire pour t'envoyer quelque chose. Et alors, premièrement, je n'ai pas de secrétaire. Mais c'est une façon de me faire comprendre qu'elle n'est pas une de mes employées, elle n'est pas une de mes franchisées, elle n'a pas besoin de prendre rendez-vous et si elle a besoin de me parler, qu'elle me parle. Donc, c'est un peu compliqué. Mais en ce moment, je suis un peu en home office depuis quelques temps. Donc, ça fonctionne bien.
Ouais, je vois. Et aujourd'hui, justement, tu dis que ça fonctionne bien, ça a l'air plutôt bien structuré. Moi, je me reconnais en toi parce que je suis aussi un peu en mode robot. Alors, je n'ai pas encore d'enfant, mais c'est dans mes projets de vie et ça sera nécessaire d'être encore plus organisé le jour où ça viendra. Tout ça pour dire, je suis persuadé que celles et ceux qui nous écoutent se disent « Waouh, c'est super cadré, comment il fait, moi, j'en suis pas encore capable, etc. » À partir de quand tu as eu ces prises de conscience et tu as été dans la nécessité, si j'ose dire, de justement bien organiser? Parce que pour beaucoup, être un entrepreneur, c'est aussi un peu survivre dans le chaos et réussir un peu à tout concilier. Puis après, tu culpabilises. Puis en fait, tu l'évoques. Hein, tu dis, voilà, moi, j'ai trois priorités dans ma vie. C'est ma femme, mes enfants, mon business. Et malheureusement, j'ai dû mettre des choses de côté. J'ai dû concilier des choses. Pour beaucoup, tu vois, ils essaient un petit peu de chercher ce fameux équilibre entre guillemets et d'avoir les différentes sphères de sa vie qui sont comblées, puis au final tu n'arrives pas, puis au final tu culpabilises, puis au final après tu n'arrives pas à atteindre certains objectifs, puis tu regrettes certaines choses, puis tu te prends la tête avec certains, puis avec d'autres. Enfin, ce que je suis en train d'évoquer, c'est une caricature, mais c'est le quotidien de la plupart des entrepreneurs. à partir de quel moment ou quelles sont les choses que peut-être tu as mis en place ou dont tu as pris conscience pour pouvoir aujourd'hui expliquer avec autant de clarté ton quotidien et cet équilibre, entre guillemets, si j'ose dire.
Mais en fait, je sais pas, tu me permets de citer, en même temps, c'est un des plus grands coachs en développement personnel, mais si je peux citer quelqu'un, ça ne te dérange pas ?
Ouais, bien sûr, bien sûr.
En fait, moi, je suis allé au séminaire d'Anthony Robbins, que je recommande à tout le monde. Alors attention, il ne faut pas croire que c'est magique et que tout va changer. Mais en fait, dans son séminaire, justement, il prend quelque chose que je reprends du coup avec les franchisés. Il appelle ça, lui, la roue du succès. Et justement, en fait, il prend tous ces aspects de la vie. Tu as la partie financière, tu as la partie relationnelle, tu as la partie amour, tu as la partie… Bon. Il prend tous ces aspects de sa vie et il te dit, mets une note de 0 à 10. Et en fait, tu te rends compte que ta roue, elle est totalement déséquilibrée. Et moi, en fait, ce que j'ai réussi à faire, pas tout seul, en fait, j'ai demandé un conseil à quelqu'un. Et ce qu'on m'a conseillé de faire, on m'a dit, n'essaye pas de tout équilibrer d'un coup. Vas-y, un après l'autre. Et par période, alors, ce n'est pas un après l'autre pendant 3 ans, forcément. Mais au début, je ne me suis pas concentré sur mon entretien physique. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui est venu que plus tard. C'est-à-dire qu'au début, je me suis mis une rigueur personnelle et professionnelle. Bon. Et en fait, c'est un peu comme les habitudes. En fait, en gros, on te dit, travaille 6 mois sur une habitude. Et en fait, quand l'habitude est ancrée, que c'est bon, ça devient, tu n'as plus besoin de te forcer. Tu vois, je disais, je me lève à 4h du matin, 4h15. Exactement, mon réveil est sonné à 4h. Mais en fait, je ne vais pas dire que c'est mon kiff. Demain, si j'étais multimilliardaire, je pense que je ne me lèverais pas à 4h du matin. Je suis même peut-être sûr. C'est une nécessité de le faire. Au début, c'est une horreur. Quand tu te lèves à 4h du matin le début, alors il y a peut-être des gens pour qui ce n'est pas le cas. Pour moi, c'était une horreur au début de me lever à 4h du matin. Tu as les yeux qui piquent, tu n'es pas réveillé. Et en fait, petit à petit, au bout d'un temps, ton corps s'adapte et ça marche, ça fonctionne. Donc, quand tu vois que c'est bon, ça fonctionne, que tu as réussi à te lever à 4h du matin, que tu arrives à mettre en place tes choses, bam, tu peux mettre une autre habitude en place derrière. Donc, moi, j'ai travaillé comme ça. J'ai travaillé habitude par habitude, mais j'ai bien attendu que cette habitude-là soit ancrée en fait et que vraiment, tu sais, ça devienne un besoin limite. Ça devienne un besoin que le dimanche, quand tu te lèves à 7h, tu as fait une grasse mat. Waouh, génial, j'ai fait une grasse mat. Que ça devienne ton rythme, tu vois. Donc, je prends cet exemple-là parce que pour moi, c'est un des exemples. Mais tu sais, je sais pas, moi, alors ça, je le fais plus, mais à un moment donné, je prenais des douches froides le matin. Tu sais, prendre une douche froide, c'est une horreur. Je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà fait. C'est pas vrai. C'est trop bien de prendre une douche chaude. D'ailleurs, je le fais plus. J'arrive plus à le faire. J'arrive plus à reprendre cette habitude-là. Mais c'est très bon pour le corps. Mais courir. Moi, j'aime courir, j'aime faire du sport aujourd'hui. Mais courir de base, tu vas courir 10 km, c'est une horreur en fait. Tu as ton cerveau qui part dans tous les sens, tu penses à plein de choses, tu n'as qu'une envie, c'est t'arrêter. Mais moi, aujourd'hui, j'en ai besoin. Je dois courir 3-4 fois par semaine. Je mets justement un livre audio et ça me permet de m'évader. C'est un peu une sorte de méditation. Donc, il ne faut pas avoir peur au début de dire que c'est douloureux, qu'il faut se faire violence. Au bout d'un moment, ça deviendra… Normalement, si tu le veux vraiment et que c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire, ça deviendra une habitude et ça deviendra même un besoin. Mais il ne faut pas essayer de tout travailler en même temps. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut aller dans le chaos et dans le chaos, tu traites un sujet après l'autre en fait. C'est le bordel. Quel sujet je vais traiter maintenant ? Je vais régler ce problème-là. Une fois que j'ai réglé ce problème-là, j'en règle un autre. Et en fait, on y va pierre à pied, prêt, étape après étape.
Complètement, complètement, je te rejoins. C'est la méthode des petits pas et lorsque l'on veut créer une nouvelle habitude, ouais. il faut pas tout mettre d'un coup. C'est capital, c'est la meilleure façon de se dégoûter et de ne pas y arriver. Adri, j'ai adoré cet échange, vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai une dernière question à te poser, la question que je pose à chacun de nos invités. Mais avant ça, si celles et ceux qui nous écoutent ont eu autant de plaisir que je n'ai eu à animer cet épisode à nous écouter, eh bien, faites-le nous savoir en mettant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, en mettant un avis sur Apple Podcast. Encore une fois, ça nous aide énormément à continuer à être dans le top des podcasts les plus écoutés en francophonie dans la catégorie business. Ça fait très plaisir. C'est une énorme gratification et c'est ce qui nous permet d'avoir des invités toujours plus intéressants, toujours plus dingues. Merci Adri d'ailleurs de t'être prêté au jeu et partagez cet épisode si quelqu'un a besoin de l'entendre et de l'écouter attentivement. Dernière question pour toi, est-ce que tu pourrais nous partager un déclic qui a littéralement créé une transformation identitaire chez toi, que tu n'as jamais partagé peut-être dans une interview, que tu n'as pas partagé dans cet épisode, mais qui te tient à cœur? Ça peut être une simple phrase, ça peut être une situation, une citation, quelque chose de positif, quelque chose de moins positif, peu importe, mais vraiment le déclic que tu as envie de partager ici et qui est la signature de cet épisode. Tu as carte blanche pour le mot de la fin.
Je te remercie tout le monde, tous ceux qui auront écouté ça. J'ai jamais partagé de façon publique, mais justement, en fait, quand je suis allé au séminaire d'Anthony Robbins, j'y suis allé parce que je pensais que ça allait m'aider à devenir un super entrepreneur. Et en fait, je me suis rendu compte là-bas que le problème que j'avais à régler, c'était à cette époque-là, ça faisait très peu de temps que j'étais avec ma femme, et enfin très peu de temps, c'était 2 ans. Et je me suis rendu compte que mon gros problème était dans ma relation de couple. Et en fait, je suis revenu en me concentrant sur ma relation de couple. Et on dit souvent que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Et moi, ce que je veux dire aux personnes qui sont là, souvent faites attention parce que c'est pas le symptôme. C'est-à-dire qu'en fait, à cette époque-là, j'étais pas un bon entrepreneur. C'est pas forcément le symptôme qu'il va falloir régler, mais c'est plus la maladie profonde. Et c'est peut-être un gros mot que j'utilise en parlant de maladie. Mais pour moi, mon déclic, tout s'est passé dans cette année-là, en 2013. J'ai ma première fille qui est née en 2012. J'ai eu ce déclic-là en 2013. Et en fait, depuis 2013, avant de me concentrer sur moi en tant qu'entrepreneur, je me suis concentré sur moi en tant que personne, sur moi en tant que mari, sur moi en tant que père. Et ça m'a fait performer en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est peut-être un peu contre-intuitif par rapport à ce que je dis jusqu'à présent. Mais en tout cas, dans mon cas à moi, c'était pas de taper sur la machine de l'entrepreneur et de me dire, ouais, sois un meilleur entrepreneur, fais plus d'argent et tout ce qui va avec. C'était de trouver, en fait, qu'est-ce qui me bloquait, qu'est-ce qui m'empêchait d'avancer. Et c'est justement là que j'ai eu le déclic de ce triptyque-là de équilibre père, mari et entrepreneur, et qui m'a permis là d'être dans un, de travailler sur cet équilibre depuis maintenant 10 ans, et d'avoir mon succès aujourd'hui. Je définis ça comme un succès parce que pour moi c'est un succès que je vis aujourd'hui, et ça n'en est peut-être pas pour d'autres. Mais donc faites attention à, pour moi le déclic il a été là. C'est parfois on a l'impression qu'on doit travailler quelque part. Et en fait, ça, c'est qu'une conséquence d'un autre problème. Donc, essayez d'aller un peu plus profond dans la découverte de vos problèmes. Ça rejoint d'ailleurs les 5 pourquoi, où on te dit quand il y a un problème, tu te demandes pourquoi. Quand tu as répondu à pourquoi, tu te reposes pourquoi. Et en fait, tu te rends compte qu'au départ, le problème, tu as l'impression que c'est un humain qui a fait le problème. Et au bout de 5 pourquoi, tu te rends compte que c'est un problème de process. Donc, posez-vous, essayez de creuser vraiment la source du problème et pas juste de regarder les symptômes en surface. Je ne sais pas si j'étais clair, je l'espère. Mais en tout cas, c'est en freestyle là. Et c'est vraiment, ça a été moi mon vrai déclic.
Merci Adrien.
Merci à toi Alec. Merci à tout le monde de m'avoir écouté. Et encore vraiment bravo et je te remercie pour tes questions ultra pertinentes et de laisser la parole à des personnes comme moi pour essayer d'inspirer d'autres personnes. Vraiment merci beaucoup Alec.
Eh ben, écoute, merci à toi avec plaisir. À bientôt.
À bientôt.